nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La famille Moscat, le roman d'Isaac Bashevis Singer, fut écrit en yiddish au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et publié pour la première fois dans une traduction anglaise aux États-Unis en 1950. À l'occasion d'une reparution du livre en 1965, un critique du New York Times citait ce bon mot attribué à Mark Twain : les Juifs sont humains, et c'est bien là la pire chose que l'on puisse dire à leur sujet. Et de souligner la parenté avec le regard de Singer, loin d'être toujours tendre à l'égard de ses personnages. Ainsi ceux de la famille Moscat, lâches, passifs, voleurs sans scrupules ou incurables coureurs de jupons, ils partagent bien des travers de l'humaine condition. En 1970, le roman paraissait pour la première fois en français chez Stock. Le 7 juillet cette année-là, pour l'émission Un livre des voix, proposée par Pierre Cipriot, Jacques-Adrien Blondeau recevait la traductrice du roman, Gisèle Bernier, et donnait à entendre quatre extraits lus par Jean Servais.
Dans l'émission Un livre des voix, Jacques-Adrien Blondeau va donc vous présenter ce soir la famille Moscat de Isaac Bashevis Singer. C'est un très gros roman qui paraît aux éditions Stock. La famille Moscat, c'est dans un autre monde un peu les Thibault de Roger Martin Dugard ou les Budenbrock de Thomas Mann. C'est l'histoire d'une famille, juive en Pologne entre le début du XXe siècle et la guerre de 1939. Il y a là le patriarche Meshulam Moscat et sa multiple descendance. Parmi eux se distingue Asa Eichel, qui par de longues méditations et la lecture des philosophes et des mystiques de sa race cherche à réduire le monde à quelques formules et, sur le plan pratique, à faire la paix avec l'idée de la mort. Il y a aussi Abraham Shapiro, qui n'est pas un homme mais un volcan, coureur de jupons, et pourtant croit fermement au couple prédestiné. Le récit, les journaux intimes, les correspondances se succèdent pour donner des cheminements de cette famille, de ses errements, d'année en année, le tableau le plus complet possible. Des scènes à nombreux personnages manifestent la divergence des tempéraments. Les personnages ne sont pas traités un à un, mais dans des ensembles où ils sont plus librement eux-mêmes. C'est un livre très intéressant parce qu'on y entre dans un monde inconnu. Les foyers juifs de Pologne avec leurs rites, leurs fêtes, les grands moments de l'existence. C'est aussi la décomposition de ce monde miné par l'émigration, par les idées nouvelles, les ruptures avec la vie traditionnelle. Miné aussi par le fatalisme de certains membres de la communauté devant la montée des périls, comme chez Asa Eichel, qui cherche à identifier Mussolini et Hitler au cataclysme naturel et à se mettre, par conséquent, le plus possible à l'abri de ces cataclysmes.
Gisèle Bernier, vous qui êtes la traductrice de Singer et ici particulièrement du roman intitulé La famille Moscat, pourriez-vous nous tracer les grandes lignes de ce livre de Singer? Il se déroule, je crois, sur environ 30 années.
Oui, La famille Moscat, qui est dans un sens le troisième volet d'un triptyque, dont les deux premiers sont Le Manoir et Le Domaine, qui va prochainement paraître aux éditions Stock, est le cinquième roman de Moscat, et il est en effet l'histoire, une passionnante histoire d'une famille, et également la chronique d'une époque dont les idées et les conflits ont donné naissance à l'ère moderne.
Oui, entre la guerre de 14 et...
Non, en 1914 et jusqu'à 1939, oui. C'est ça. Oui,
et pourriez-vous nous dire qui est l'auteur, qui est Singer?
Singer est né en 1904 en Pologne. Il y a un critique américain qui l'a surnommé le Rosen Yiddish d'ailleurs, parce qu'il est très pessimiste. À l'âge de 16 ans, il a commencé à écrire, il a étudié le Talmud, en hébreu d'abord, et puis ensuite il a écrit en yiddish. Et il vit depuis 1935 aux États-Unis, où il a publié 6 romans et plusieurs recueils de nouvelles et de contes pour enfants.
Mais en américain, pas en yiddish.
En américain. Non, en yiddish d'abord et vers la fin en américain. Les dernières œuvres sont en américain.
Alors de ce roman, nous avons choisi de lire 4 extraits, tous relatifs aux principaux acteurs de ce drame. Ils sont bien évidemment des moments de cette œuvre très longue, riche et complexe. Tout d'abord, abordons l'un de ces portraits avec Asa Eschel. Alors, qui est Asa Eschel, que je crois l'on ne peut pas détacher d'un autre personnage féminin, Hadassa. Quelle sorte de type juif est Asa Eschel?
Je crois que Asa Eschel est le personnage qui présente les caractéristiques principales de l'intellectuel juif. Point de lâcheté dans son refus, par exemple, de se battre. Il s'engage dans l'armée volontaire, non pas pour se battre, mais pour se prouver à lui-même qu'il est capable d'assumer le rôle qu'assument les autres, et aussi pour ne pas paraître lâche au lieu des autres. Pourtant, il est hostile à la violence, non pas par lâcheté. Il pointe de lâcheté dans son acceptation fataliste, en quelque sorte, du destin, mais une grande dignité dans la souffrance. Même son amour pour Hadassa a un côté pessimiste et destructeur presque. Hadassa est un personnage que Singer traite avec beaucoup de tendresse, mêlée de pitié d'ailleurs. Elle est un personnage dramatique dans un sens, parce qu'elle meurt en solitaire, dramatiquement, tout comme Myriam Lieba dans les deux autres romans qui font partie du triptyque.
Elle meurt vaincue.
Vaincue, et oui.
Alors pourquoi, chez Asa Eschel, n'y a-t-il jamais de réalisation de toutes ses aspirations? Il a des tas de problèmes graves, profonds, et chaque fois c'est un échec.
Il est harassé par les problèmes quotidiens, matériels, qui, en effet, l'empêche de vivre la vie qu'il aimerait vivre, uniquement, je crois, plongé dans ses études, cherchant la vérité, cherchant l'impossible, dans l'abstrait, il se pose sans cesse des questions métaphysiques, et son entourage est forcément exclu de ses préoccupations d'un ordre intellectuel. Et il se sent un peu, je crois, parmi les siens, étranger. Sauf Hadassa qui peut-être l'a pénétré un peu mieux, qui l'a compris. Et pourtant, finalement, Hadassa ne peut pas entrer dans son univers, je crois. Un univers plein de bruit et de fureur. Un univers où la cruauté, le masochisme, le sadisme et surtout la sensualité tiennent une grande place. Mêlés d'ailleurs, à une piété familière et poétique sans fadeur.
La porte s'ouvrit, et Gina passa la tête par l'entrebâillement. « Une jeune dame vous demande, » fit-elle. « Peut-elle entrer ?» Elle se retira, et Hadassa entra. La jeune fille portait une veste gancée, un béret de velours, des chaussettes en laine par-dessus ses bas. Ses joues étaient rougies par le froid. Des flocons de neige restaient accrochés à ses épaules. Elle tenait à la main un sac noir et un petit livre à la couverture rouge. Elle attendit sur le seuil jusqu'à ce que Gina fût partie. « Mais vous me fixez du regard, comme si vous ne me reconnaissiez pas, » dit-elle en polonais. « Comment pourrais-je ne pas vous reconnaître, Hadassa ? Vous dormiez, je vous ai réveillé. » Non, non, seulement, je n'espérais pas. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Je vous croyais malade. Oh non, je n'étais pas malade. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous ai attendu pour les cours. Très surprise de votre disparition soudaine, c'est l'oncle Abraham qui m'a donné votre adresse. Asa Eschel ne répondit rien, et tous deux gardèrent le silence. Ils comprenaient que la visite de Hadassa sortait de l'ordinaire, mais il n'en interprétait pas encore la signification. « Je me demandais si je vous avais offensé, » l'entendit-il dire enfin. « Oh non, comment pourriez-vous m'offenser ? Mais parce que vous ne m'avez même pas téléphoné. » « On m'a interdit de vous rendre visite, » dit Asa Eschel. « Et qui vous l'a interdit ?»« Votre grand-père. Ce n'était pas vraiment une interdiction, mais il disait que vous étiez sur le point de vous fiancer. » Mais c'est inexact. Elle s'assit sur le bord du fauteuil, ôta l'un de ses gants pour le remettre aussitôt. Mais peut-être êtes-vous très occupé en ce moment, fit-elle après un silence. Je ferais mieux de partir. Non, je vous en prie, restez. J'avais cru qu'en dehors des cours, je pouvais vous considérer comme un ami. Chaque jour, j'ai demandé à Chifra si vous aviez téléphoné. Mon oncle Abraham a également demandé de vos nouvelles. Que lisez-vous là ? Demanda Asa Heschel en désignant son livre, manifestement désireux de changer de sujet. Victoria de Knut Hamsun. Un roman ? Oui. Nouveau silence. Puis Hadassah reprit la parole. Vous étiez seul à ce que je vois. Que puis-je faire d'autre ? Pourtant, j'ai bien peur de ne pas être capable d'y arriver tout seul, préparer des examens, potasser les manuels. Je suis trop vieux. Mais il ne faut pas abandonner. Pourquoi pas ? À quoi servira tout cela ? On finit par se résigner. Vous êtes trop pessimiste. Je le sais parce que je suis assez porté à la mélancolie moi-même. Tout le monde est contre moi, mon grand-père, mon père et même ma mère. Mais qu'attendent-ils de vous ? Vous le savez. Néanmoins, je ne puis m'y résoudre. Elle s'apprêta à ajouter quelque chose, mais elle se tut brusquement. Elle s'approcha de la fenêtre. Asa Heschel la rejoignit. Dehors, la pénombre couvrait le paysage d'un voile bleu. La neige tombait doucement et enveloppait tout de son manteau blanc. Des lumières brillaient derrière la fenêtre d'en face, un faible bruit comme le vent qui soupire ou fait frémir les arbres flottait dans l'air. Asa Heschel retint sa respiration et baissa les paupières. Ah, si le soleil pouvait arrêter sa course, comme il l'avait fait pour Josué. Si la pénombre pouvait durer toujours. Si seulement tous les deux, lui et Hadassah, pouvaient rester ainsi, l'un près de l'autre, derrière la fenêtre, pour l'éternité. Il se tourna vers elle et rencontra son regard. La faible lumière lui cacha ses traits où seuls ses yeux, grands ouverts, entourés d'une zone d'ombre, dominaient. Il eut l'impression d'avoir déjà vécu tout ceci. Il s'entendit dire lui-même « Je vous ai tant attendu. » La jeune fille frémit. Elle eut la gorge serrée. « Moi aussi, » parvint-elle enfin à dire, « depuis le début. » Hadassah était parti. Il faisait sombre. Et pourtant, Asa Heschel n'avait pas allumé la lumière. Couché entièrement vêtu sur son lit, il fixait du regard l'obscurité, rompue de temps à autre par les éclairs de lumière fugitifs qui léchaient le plafond, avant de se perdre dans les coins de la pièce. Avait-il vraiment vécu ce qui venait de se passer ? Était-ce réalité ou rêve ? Où était la différence ? Toute réalité n'était-elle pas, selon Berkeley, la perception de l'esprit divin ? Quelle sottise ! Ils étaient deux, homme et femme, et ils s'aimaient. Elle l'épousera, et ils pourront s'embrasser, s'étreindre et avoir des enfants. Non. Toute l'affaire était de la folie. Le grand-père de Hadassah ne donnera jamais son autorisation. Peut-être regrettait-elle déjà ces moments passés. N'empêche que personne n'effacerait jamais les paroles qu'elle avait prononcées. Elles étaient déjà une part de l'histoire du cosmos.
Amoureux, Asa Heschel verra son amour s'évanouir avec le temps. Alors Asa Heschel est-il le visage de la tradition juive ? Les années s'écoulant, nous le verrons faire preuve d'irrésolution, de résignation. Il doute, il perd la foi, il cherche, il se cherche, mais il détruit autour de lui et au-dedans de lui. Il tuera jusqu'à l'amour de Hadassah. Il vivra dans sa lumière, mais pour l'étouffer. Par quel destin ce lent processus de négation chez Asa Heschel ?
Je crois que c'est en effet le destin du peuple juif, et c'est incarné justement, ce qui est parfaitement incarné par Asa Heschel, qui en est l'archétype en quelque sorte. Je crois que ce pessimisme fondamental chez le peuple juif qui mène inévitablement à la destruction, à sa propre destruction.
Alors une autre question. Il y a un portrait intermédiaire, un portrait secondaire, oui, qui me semble important dans l'œuvre. Il est dans l'ombre, oui, il agit dans l'ombre. Il s'agit d'un personnage qui s'appelle Coppel. Alors qui est-il en tant que caractère pour Singer, ce juif voleur, intrigant, oui, qui détourne à son profit les biens d'une famille? Ce juif, qu'est-ce qu'il nous montre au travers de son comportement? Quelle est la signification de ce personnage de Coppel?
Eh bien, c'est le personnage maléfique par excellence, je crois, qui pourrait très bien représenter, je ne sais pas, les nazis par rapport aux juifs, qui est systématiquement détruit tout ce qui a rapport à la famille juive, particulièrement cette famille moscate, à laquelle il doit tant, pourtant. Il cherche par tous les moyens à détruire le noyau familial, et chaque membre de la famille d'ailleurs, finalement. Parce qu'il a la haute main non seulement sur la fortune de la famille Moscat, mais il dirige également finalement les mariages des petits-enfants, les mariages, etc. Et c'est lui qui s'occupe de doter au nom les enfants, et il accapare d'ailleurs la plus grande partie de la dot à son propre profit, sans parler du vol qu'il commet.
Apparemment, il n'y avait personne dans la maison, excepté le malade et l'infirmière. On ne voyait de lumière dans aucune des autres pièces. Il poussa la porte du bureau. Les stores étaient à moitié baissés et la faible lueur des réverbères entrait par les fenêtres. Des raies de lumière tremblotaient au plafond et se perdaient dans les coins sombres de la pièce. La porte du coffre-fort brillait d'un éclat mat, à l'instar d'un miroir noir. Coppel écouta intensément, en retenant son souffle. Il retira la clé de sa poche. « Maintenant ou jamais, se dit-il. » Il essaya d'introduire la clé dans la serrure, mais rencontra un obstacle. La clé glissa et rafla la surface polie avec un bruit métallique. Il aurait voulu gratter une allumette, mais il n'osa pas. Tous ses sens étaient en éveil. Il tâtonna du bout des doigts le trou de la serrure. Celui-ci était bouché avec de la cire ou du mastic. Il sortit son canif de sa poche et débarrassa le trou de son enduit. Puis il y introduisit prudemment la clé. Cette fois, elle pénétra sans difficulté dans le trou. Il la tourna vers la droite. La serrure céda avec un grincement. Cependant, la porte resta close. Il tira de toutes ses forces et la porte s'ouvrit. Le coffre-fort devait être bourré de documents, car malgré l'obscurité, Coppel distingua des paquets de papier qui glissaient comme dans un rêve, pêle-mêle, les uns après les autres, par terre. Il s'agissait incontestablement de banknotes. Il les reconnut à leur dimension, à leur bordure froissée. À partir de ce moment, tout alla très vite. Coppel s'agenouilla, dénoua les courroies de sa serviette qu'il déplia ensuite, puis il se mit à fourrer les billets dedans. En un rien de temps, la serviette spacieuse était si bien remplie qu'il peina pour la refermer. Il enfouit le restant des billets dans ses poches de poitrine, les poches de son pantalon et de son gilet. Enfin, il ramassa sa serviette, surpris par son poids. Il n'aurait pas cru que le papier pouvait peser aussi lourd. Pendant qu'il serrait la courroie, la langue d'acier se ficha dans son doigt, profondément, sous l'ongle. « Je vais avoir une infection, se dit-il. » Il mit son doigt dans la bouche. Et le suça, il ne faut pas que je laisse la moindre trace de sang. Il se sentait semblable à un meurtrier qui fait disparaître des indices. Soudain, il se mobilisa, croyant entendre des pas. Les mains tremblantes, il ferma la porte du coffre-fort et la verrouilla. Puis il sortit dans le couloir. Dans la pénombre, il crut distinguer le pâle contour d'un visage. « Mania » appela-t-il. Il n'eut pas de réponse. La forme s'évanouit comme si sa voix l'avait exorcisé. L'appel sonna creux dans ses oreilles. Sur le plancher, il aperçut une banknote. L'aurait-il perdue en sortant? Il se baissa pour la ramasser, mais ce n'était qu'une tache de lumière que le plancher réfléchissait faiblement. « Je commence à être nerveux, » pensa-t-il. Ses tempes battaient de fièvre et la sueur mouillait son col de chemise. Il tourna en rond en traînant les pieds bruyamment, jusqu'à ce qu'il trouva la porte de la chambre de Meshulam. Dans la pâle lueur d'une lampe, L'ombre énorme d'une tête qui dodelinait se dessinait au plafond. L'infirmière à la coiffe blanche se tourna vers lui et posa un doigt sur ses lèvres. Dans l'escalier, la lumière n'était pas encore donnée. Coppel ne rencontra personne lorsqu'il sortit. « Mais où sont-ils tous ? » s'étonna-t-il. « Laisser le vieillard ainsi tout seul ?» Des phrases sans suite, des mots hébreux depuis longtemps oubliés lui passaient par la tête. Pendant un moment, il resta indécis quant à la direction à prendre. Un fiacre approcha et Coppel lui fit signe de s'arrêter. Montant à bord, il s'écorcha le genou à la marche. Il s'assit sur la banquette et posa sa serviette à côté de lui. « Mais où vous conduirai-je ? » demanda le cocher. Coppel constata avec consternation qu'il ne se souvenait pas de sa propre adresse. « Mais où allons-nous, patron ?» Coppel lui donna le nom d'une rue qui longeait le pâté de maison où il demeurait. Le cocher donna de petits coups de fouet sur les flancs du cheval. D'énormes nuages noirs et pourpres traversaient rapidement le ciel, découvrant de temps à autre le disque blafard de la lune. Le fiacre dépassa la maison de Coppel. Celui-ci jeta un coup d'œil vers l'entrée. Personne aux aguets. Il remonta le col de son manteau et enfonça son chapeau sur sa tête, afin de ne pas être reconnu par quelques voisins qui pourraient se trouver dans les parages. Il constata que dans son propre appartement, une seule fenêtre était éclairée. Bachelet était toujours aussi économe qu'au début de leur mariage, alors qu'il ne gagnait que 10 roubles par semaine. « Voici arrivé, patron. Oh !» fit le cocher. Coppel descendit, donna un demi-rouble à l'homme et regarda le fiacre partir. Puis il se dirigea lentement vers sa maison. À la porte de son propre appartement, Coppel s'immobilisa un instant pour écouter. Il entendit Bachelet remuer dans la cuisine tout en chantonnant. Tout allait bien. Il entra chez lui. « Est-ce toi, Coppel ? » fit-elle. Elle se tourna vers lui et faillit lâcher le poêlon qu'elle tenait à la main. « Dieu du ciel ! Tu es blanc comme la cire, pire qu'un cadavre. »« Mauvaise mine, moi. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais blanc comme la craie. Es-tu malade ? As-tu mal quelque part ? Je n'ai rien du tout. » Que transportes-tu dans ta serviette ? Elle est tellement bourrée qu'elle craque presque aux coutures. » Coppel sursauta. « Quelqu'un est-il venu ici ? » questionna-t-il. « Personne. Qui viendrait ? Et où sont les enfants ? » ?»« Aucune idée. Usez leur semelle à courir à gauche et à droite. » Coppel entra dans la salle de séjour obscure, la grande chambre, comme l'appelait la famille. Sans allumer la lumière, il trouva son chemin jusqu'à sa propre chambre. C'est là qu'il travaillait sur ses comptes le jour du sabbat et qu'il rêvait à Léa. Il alluma une cigarette et approcha la flamme de la lampe à naphte. En dépit de tout le mal que se donnait Bachelet pour garder la chambre bien rangée, celle-ci était toujours encombrée d'objets divers. Coppel ferma et verrouilla la porte. Il ouvrit sa serviette et examina les banknotes dont elle était bourrée. Avec des doigts tremblants, il retira des paquets de billets de ses poches. Un simple coup d'œil suffisait pour lui faire comprendre que son butin s'élevait à une somme bien plus forte qu'il n'avait pensé. La plupart des banknotes étaient ficelées en paquets qu'entourait un élastique. Chacun de ces paquets contenait des billets de 100 roubles. Il devait y avoir près de 5000 roubles dans une seule de ces liasses. « Un trésor !» murmura-t-il. Sa voix sonnait étrangement à ses oreilles. Il sentait une présence insolite qui le guettait partout. La flamme de la lampe vacillait comme soufflée par un courant d'air. Les vitres vibraient. Coppel commença à compter l'argent, mais il ne fit que se tromper. Il voulut humecter le bout de ses doigts afin que les banknotes n'y collent pas, mais il avait la bouche sèche. Il s'immobilisa au milieu de la pièce et regarda autour de lui. « Il faut cacher cet argent, se dit-il, le plus tôt possible. » Cependant, où le mettre en sûreté ? Quel serait l'endroit idéal où personne n'irait le chercher ? Une malle ne ferait pas l'affaire, ni le dessus de la cheminée. Pas même le grenier où le conservait la vaisselle, la batterie de cuisine pour la Pâque. Peut-être pourrait-il le dissimuler sous une planche du sol. Malheureusement, la police n'ignorait rien de ce genre de combine. Il s'approcha du miroir et étudia son image. Il l'interpella. « Ah, pauvre diable ! Vulgaire voleur !» Bachelet avait raison, il était blanc comme la craie. Ses cheveux étaient humides de transpiration. « Je vais tomber malade, pensa-t-il. Je ruine ma santé et la vie de tout le monde. » Soudain, il entendit un claquement bruyant de la porte d'extérieur et le bruit de pas rapides. « On me recherche déjà, c'est la police. » Il se jeta sur le tas d'argent et le couvrit de ses bras comme pour le protéger. Et de nouveau, il ressentit une douleur cuisante aux doigts. Il eut un coup sec frappé à la porte. « Qui est là ?» aboya-t-il en polonais. Ce n'était que Bachele, venant lui annoncer que le repas allait être servi. « Pourquoi t'enfermes-tu » demanda-t-elle à travers la porte. « Les nouilles vont refroidir. »
Troisième portrait. Celui-ci, généreux, bon, jovial, Abraham Shapiro. C'est un jouisseur, un dépensier, défiant toute morale. Et que représente-t-il dans le destin d'un juif?
Je ne pense pas qu'il soit typiquement juif. C'est un type d'homme qu'on rencontre, je crois, dans tous les milieux, chez tous les peuples, dans toutes les races.
Ah bon, Abraham ne se remet pas en question, il ne se réalise pas.
C'est-à-dire, si, en fin de compte, si, tout compte fait. Quand il meurt, son côté juif l'emporte sur toute sa vie, sur tout le reste, sur sa vie, en effet, de jouisseur, de fornicateur, etc.
Est-ce que ça n'est pas, en fin de compte, un être profondément désespéré? On a le sentiment qu'il noie cette souffrance dans le plaisir, dans la spéculation. Il dira en mourant, et c'est une question que l'on peut se poser, « Je crois en Dieu, je meurs en juif.
Oui. »
Et l'analyse extérieure de son comportement dans sa vie prouve tout le contraire. Alors comment l'expliquer?
Non, je ne pense pas qu'il soit désespéré. Moi, je crois que c'est un homme, un bon viveur, qui n'approfondit pas du tout, disons, les questions vitales sur la vie, sur la mort, etc. Il ne se pose pas la question, il se laisse vivre, simplement. Mais quand il meurt, effectivement, il y a le côté juif, il se souvient tout de même qu'il est juif avant tout, et il dit « je meurs en juif ».
Abraham s'agrippa de ses deux mains au côté du fauteuil, et il grimaça comme s'il était en proie à une souffrance intense. Azaechel l'aida à se relever. Abraham fit quelques pas, puis il s'arrêta. Il retira un mouchoir de la poche de son peignoir et il essuya la sueur de son visage. Dans la chambre à coucher, des fioles, des bouteilles, des boîtes de pilules se trouvaient pêle-mêle sur une chaise, des assiettes et des verres sales un peu partout sur les meubles, des livres et des papiers jonchaient le sol. Abraham s'assit prudemment sur le lit, s'appuya contre les coussins et prit une position confortable. « Ah, croyez-moi, je ne suis plus qu'une carcasse brisée, » grogna-t-il. Coucher ainsi, c'est encore supportable, mais dès que je me lève, ma santé ne vaut pas plus cher qu'une prise de tabac. Le cœur de l'homme, je vous le dis, frérot, est un récipient sans valeur. Eh bien, je ne pensais pas que je tiendrais le coup aussi longtemps. Et si vous voulez savoir la vérité, je crache sur toute cette saleté de vie. J'avais l'intention de me faire incinérer, mais après tout, à quoi bon? Il faut bien nourrir les vers de terre également. Et aussi en des femelles et des petits. Hein, parlons de sujets plus plaisants. Comment les choses s'arrangent-elles pour vous? Avez-vous eu des aventures? Qui est cette jeune fille? Je ne veux pas être celui qui vous juge. Cependant, je dois dire que votre façon d'agir ne me plaît pas. Et je vous l'ai dit, on veut m'arrêter. Ah, évidemment. Si vous fréquentez des gens de cette espèce, on vous arrêtera encore souvent. On vous mettra très poliment à Londres, dans une prison, et je ne ferai rien pour vous en sortir. Hadassah n'a pas assez de ses yeux pour pleurer. Elle n'est pourtant pas l'une de ces éternelles pleureuses, mais je vois bien qu'elle ne peut pas en supporter davantage. Où trouverez-vous une meilleure amie qu'elle? Pendant des années interminables, elle vous a attendu. À cause de vous, elle a tourné le dos à tout et à tout le monde. Et voilà comment vous la payez en retour. Qu'y a-t-il? Ne l'aimez-vous donc plus? Mais si, je l'aime. Mais dans ce cas, pourquoi la torturez-vous? Allez-y, parlez franchement. Abraham, je ne suis pas fait pour la vie de famille. Mais ce n'est que maintenant que vous le découvrez. Vous désirez divorcer, hein? Je veux qu'on me laisse en paix. Je me sens incapable de porter plus longtemps ce fardeau sur mes épaules. Mais que voulez-vous devenir un vagabond? Je ne peux plus supporter cette existence. Je suis mortellement fatigué. Oui, vous avez l'air réellement fatigué. Peut-être aimeriez-vous boire un peu de cognac? Le médecin m'en a prescrit. Non, pour moi, ce ne serait pas un remède. Asseyez-vous. Des gens de votre espèce se fatiguent à force de méditer. Qui est cette jeune femme? La fille d'un missionnaire. Et une communiste par-dessus le marché. C'est ce qu'elle prétend. On récolte ce qu'on a semé. Je suis bien content de ne plus être de ce monde bientôt. Des temps pleins d'amertume se préparent pour vous, les jeunes. On nous anéantira tous. Abraham osa les sourcils. Mais qui? De qui parlez-vous? Nous sommes prêts au piège, sur le plan économique, spirituel, à tous les égards. Mais nous devrions au moins nous serrer les coudes s'il en est ainsi. Pourquoi? Nous n'aimons pas à ce point notre prochain. Pourquoi ne faut-il pas entendre? Mais voici sur mon lit de mort et c'est moi qui dois encore le réconforter. Ah non, la fin du monde n'est pas encore proche. La fin de notre monde est proche.
Vous êtes complètement fou.
Vous sombrez dans la neurasthénie parce que vous le voulez bien. Qu'avez-vous donc envie de faire? Rester inactif et pleurer? Personnellement, je suis à bout. Dasha est malade. Hadassah ne se préoccupe que de maladies et de médecins. Elle me tue avec ses criailleries.
Mais taisez-vous. Vous ne me laissez pas mourir en paix. Dites-moi exactement ce que vous désirez. Vous convertir.
Je veux tout quitter et m'en aller.
Mais allez où?
Oh. Ah, frérot. J'avais tant mis d'espoir en vous. Vous m'infligez une amère déception. Oh, je me dégoûte moi-même.
Vous êtes un poltron, frérot. Voilà la vérité.
Vous désirez vous enfuir et abandonner tout. Vous êtes tout feu, tout flamme pour votre nouvelle découverte. Or, dans peu de temps, vous serez de nouveau en marge de la vie. À moins que vous ne songiez à vous suicider. Alzaïch, elle, ne répondit pas. Sous ses sourcils touffus, les grands yeux noirs d'Abraham l'examinaient avec insistance. La ride sur son front se creusait davantage, telle une blessure. Épuisé, il laissa tomber sa tête sur les coussins, il ferma les yeux. Il resta ainsi sans un mouvement. Enfin, il rouvrit un œil. « Venez m'embrasser. » Azaïch, elle, se pencha sur le malade et lui posa un baiser sur le front. Abraham souleva ses bras et entoura les épaules de son jeune ami. « Je crois en Dieu, murmura-t-il. Je meurs en bon juif. »
Les personnages de Singer vont-ils au-delà de leur mesure? Apparemment, chacun vit d'intérêts, de sordides conflits d'héritage. L'univers de chacun ne demeure-t-il pas au niveau du souci matériel quotidien? Nous avons ici un monde qui se rapproche d'un monde d'enfer,
oui,
où tout le monde s'entre-dévore, s'entre-déchire. Alors, où est l'appel vers la lumière, l'appel de Dieu? Il en est rarement question dans cette œuvre.
Non, mais on le sent tout à travers son œuvre, toujours. On en parle peu, d'ailleurs, je crois, parmi les Juifs, mais on le sent constamment. Je crois que c'est tout de même ce qui prime pour le Juif. Cette profonde croyance qui, je crois, guide toute sa vie. Et en apparence, il a une vie parfaitement normale, enfin, oui. Mais sa religiosité est tout de même ce qui prime.
Mais alors, il a écrit ici une œuvre, un roman cruel,
cruel,
à la fois très réaliste,
oui,
c'est l'analyse, comme vous le dites, du mécanisme de la décomposition d'une famille. Mais alors, décomposition par quel phénomène uniquement ? Les événements extérieurs, les querelles de famille, une contamination par les idées, quoi ? Est-ce suffisant ?
Pour lui, je crois que l'homme est prisonnier de son milieu et de sa race, pour Singer. Expression terrestre d'une volonté divine, disons. N'empêche que Singer est aussi un humaniste. Il est avant tout un excellent conteur qui suit chacun des personnages, même les personnages secondaires sont remarquablement étudiés, sans parler des personnages principaux qui évoluent autour de Michel la Moscate, le patriarche.
Oui, mais vous ne répondez pas entièrement à ma question.
Oui.
Je disais œuvre pessimiste. Ici, il y a œuvre de mort et de destruction dans ce roman. Mais pour moi, le destin juif est contraire. C'est celui de la survie et de la vie, même s'il n'y a pas d'espoir de vie. Et pour la première fois, ici, il y a une autre résonance.
Oui.
Alors, pourquoi ? Que veut-il dire ? Est-ce qu'il veut parler, en fin de compte, au travers de tout cela, du peuple juif en général ? Nous allons vers la mort, et nous nous laissons conduire vers la mort avec résignation.
Oui.
Alors, est-ce là un signe ?
Je crois, oui. On le rencontre très souvent, je crois.
Est-ce que c'est à la fois une œuvre objective, profondément juive ?
Pessimiste, plutôt. Profondément juive, oui.
En quoi ?
Profondément juive. Dans tous les personnages, dans même la conception même, l'idée maîtresse du livre, la fin surtout, la mort et le Messie ne font qu'un, je crois que c'est une sorte de délivrance pour Persianova, le vieux professeur. C'est non pas là une idée pessimiste, mais c'était plutôt, je crois, qu'une délivrance, la mort. Le Messie, c'est quelqu'un qu'on attend, que les Juifs attendent depuis 2000 ans et qu'on attend avec impatience. En fait, sans jamais, le Messie n'a pas la réalité visible. Parce que chez Singer, la réalité visible renvoie toujours à une autre réalité. Et le naturel, le surnaturel, comme le réalisme et l'insolite ou le fantastique, se côtoient sans cesse dans son œuvre. Et on retrouve une autre phrase dans un de ses romans précédents, qui est également très belle. « Si Dieu n'existe pas, c'est à l'homme de se conduire comme s'il était Dieu. »
« Oh, je vous en prie, ne faites pas tant de bruit !» s'exclama Dina. « Je vais devenir folle. Des gens de bon sens abandonnent tout et s'enfuient. Or nous, comment y parviendrons-nous ? Je suis à peine capable de faire deux pas. Écoutez-moi. Que les hommes partent. Tamar et moi-même, nous nous débrouillerons. Quel mal pourront-ils nous faire après tout ? Qu'en penses-tu, Azaréchel ? Parle, je ne t'entends pas. Que Dieu me vienne en aide. Sais-tu qu'Adèle est ici ? On l'a envoyée.
Adèle ?
Oui, Adèle.
Leur bateau a navigué dans toutes les mers et finalement il a dû rebrousser chemin. Voilà comment on nous traite, nous autres juifs, tiraillés entre les uns et les autres, pour être enfin jetés au rebut. Elle vient ici tous les jours et elle pleure à chaudes larmes. Elle veut s'en aller, elle aussi. Qu'est devenu l'autre ? Hadassa est morte.
Quoi ? Que Dieu nous protège.
Elle est morte sous les bombes.
Quand ?
Oh, mon Dieu, une aussi belle enfant. Et si jeune, si gentil, quelle chose terrible. Oh, mon oncle, commença Tamar d'une voix émue, incapable d'achever sa phrase.
Non, ne parlez pas et ne criez pas tous à la fois, intervint Dina.
Avec ces événements atroces, je suis à bout de nerfs. J'ai tout le temps comme un chant dans les oreilles, un chant qui m'obsède. La mélodie du col nidré, à l'instar du terrible Titus, que sa mémoire soit maudite. « Assieds-toi, Azaréchel, assieds-toi donc. Cela ne te coûtera pas plus cher. Que peut-on faire, je te le demande ? Où pourrons-nous fuir pour sortir de cet enfer ? Nous ne possédons pas un sou à la maison. Nous ferions aussi bien de nous coucher et d'attendre la mort. Je ne me soucie pas de ce qui pourra m'arriver, mais que deviendront les miens ? Et surtout les enfants ? Il me reste quelques livres de Gruau d'Avoine. » Voilà tout ce que nous avons pour vivre. Dès que cette provision sera épuisée, nous ferons aussi bien de nous enterrer. L'armée voulait enrôler mes garçons, mais un regard sur eux avait suffi pour que le bureau de recrutement les renvoyait dans leur foyer. On manque de vêtements pour les soldats. On dit que Hitler est à Wola. Que Dieu nous vienne en aide. Qu'allons-nous devenir, nous autres juifs ? Elle se mit à sangloter. Quel temps terrible ! Que pouvons-nous faire ? Où pouvons-nous aller ? Le courroux de Dieu pèse sur le monde. C'est une malédiction. Tamar eut honte des pleurs et des lamentations de sa mère. Ses joues se couvrirent de taches rouges. Menassa David, après avoir hésité un moment, quitta la cuisine. Azaréchel embrassa Tamar et dit « Je serai bientôt de retour. » Barbara s'impatientait au milieu de la cour. Les yeux étincelants, le visage blême de colère, elle reçut Azaréchel avec une rebuffade. « Je croyais que tu n'en sortirais plus jamais. »« Il s'agit de ma sœur. » « Écoute, Azaréchel, je n'ai pas l'intention de m'attarder plus longtemps ici. Je pars aujourd'hui même. Dis-moi une fois pour toutes, viendras-tu avec moi ou resteras-tu ici ?»« Je reste. »« Est-ce ton dernier mot ?»« Oui. »« Mais dans ce cas, adieu. Que Dieu te vienne en aide. »« Au revoir, Barbara. Pardonne-moi. » Je ne vois pas de raison à rester avec les nazis. Toute ma famille reste ici. Plus rien ne m'importe. J'ai envie de mourir. Elle le scruta avec des yeux hostiles. Peut-être as-tu raison. Mais moi, je préfère continuer à me battre encore quelque temps. Où vas-tu maintenant? Je veux revoir Hertz Yanovar. À quoi bon? Enfin, je t'accompagne. C'est sur mon chemin. Une bonne partie de la rue Jvientoyerska était en ruine. Partout où l'on posait le regard, on apercevait des toitures enfoncées, des cheminées fracassées, des murs écroulés, des fenêtres et des balcons branlants. Devant la grille des jardins de Krasinski, Azaréchel rencontra Hertz Yanovar. Son vieil ami avait les cheveux tout blancs. Il portait une veste de velours par-dessus sa chemise ouverte et une paire de sandales aux pieds. Il semblait attendre quelqu'un. Ses yeux noirs scrutaient l'horizon. Azaréchel l'appela par son nom. Le vieillard se retourna d'un air hébété, puis il courut les bras tendus à la rencontre d'Azaréchel et de Barbara, et les embrassa. « Je ne croyais plus revoir ton visage, » dit-il en citant la phrase biblique. « Et que faites-vous ici dans la rue ? Où est Gina ?» Gina est alitée avec une fluxion de poitrine. Dire que ce malheur vient s'ajouter aux autres. J'attends le médecin. Il a promis de venir. Il aurait dû arriver quelques heures plus tôt déjà. Et vous? J'avais cru que vous aviez réussi à vous enfuir quelque part. Hertz Yanovar fondit en larmes. Il retira un mouchoir jaune de sa poche et se moucha bruyamment. Il se tenait devant eux à la fois confus et honteux. « Je n'ai plus de force, » fit-il en manière d'excuse. Il hésita un instant, puis il reprit en polonais. « Le Messie viendra bientôt. » Azaréchel le regarda avec surprise. « Que voulez-vous dire ? » ?»« La mort et le Messie ne font qu'un. » Voilà la vérité.
C'était Un livre des voix, La famille Moscat d'Isaac Bashevis Singer, par Pierre Cipriot et Jacques-Adrien Blondeau. Première diffusion sur France Culture le 7 juillet 1970. Réécoute et téléchargement sur le site franceculture.fr à la rubrique Les nuits de France Culture.